Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici un nouveau numéro de Ça se passe près de chez vous, avec le concours de Stéphanie Petit de Toutes les nouvelles de Rambouillet. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons un invité aujourd'hui, il s'agit de monsieur Hervé Malcorpi, qui représente donc la Fédération Française de Randonnée, c'est bien ça ?
C'est ça, président de la Fédération Française des Yvelines.
Eh bien très bien, pour les Yvelines. Et donc vous allez nous faire découvrir justement les bons côtés et les qualités de la randonnée, tout ce que vous pouvez proposé dans un département qui, avouons-le, quand même est très gâté pour ça.
Absolument, oui.
Commençons d'ailleurs peut-être par le comité départemental de randonnée des Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ses actions ?
Alors tout d'abord, la composition du CDRP, Comité départemental de randonnée pédestre des Yvelines, c'est une structure composée d'une trentaine de personnes, composant le comité directeur. Et nous gérons sur le territoire des Yvelines plus d'une cinquantaine de clubs, répartis principalement, ça c'est assez original, à l'est du département et au nord-est du département, avec quelques petites structures près de Rambouillet. Et l'ensemble donc de ces clubs représente 4 500 licenciés. Voilà pour notre domaine d'influence. Notre autre domaine, c'est une compétence qui est dévolue au conseil départemental des Yvelines, qui est donc la gestion des PR, donc petite randonnée, GR, grande randonnée, GRP, grande randonnée de pays. C'est actuellement 1500 km que nous gérons par l'intermédiaire de 120-130 bénévoles qui sont répartis au nord, au centre et au sud du département. Et la dernière nouveauté, c'est que nous avons repris, il y a un an, la gestion du parc naturel régional de Chevreuse de 130 km que nous balisons, en blanc et en bleu. Alors que nos couleurs de balisage, comme tout le monde le sait, d'ailleurs c'est pratiquement, hélas, notre seul outil de communication, c'est rouge et blanc.
Alors pourquoi en bleu ?
Parce que c'était dans le cahier des charges du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse.
On a pu s'en rendre compte, effectivement, vous êtes aussi présent, parce que vous parliez du nord et de l'est du département, mais vous êtes présent dans le sud. Je pense notamment à la première rando village qui a eu lieu l'an dernier, dont on a pas mal parlé. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette première édition ?
Alors justement, profitant de l'opportunité d'avoir des relations avec le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse et de bien connaître ce territoire, nous avons décidé pour la première fois d'organiser une randonnée pédestre concernant quatre villages du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, à savoir Saint-Arnoux, Clairefontaine, Rochefort et Sonchamp. J'ai donc pris mon bâton de pèlerin et j'ai rencontré les quatre maires qui ont été enchantés par ce genre de manifestation, ouvert au public licencié ou non licencié, avec quatre parcours correspondant à quatre distances différentes, partant de 17 km à 25 km. Sachant que le point de départ et d'arrivée était donc la ville de Saint-Arnoux en Yvelines, avec qui d'ailleurs je déjeunais tout à l'heure, puisqu'ils vont partir sur un autre événement d'ici 2 ans. Alors l'intérêt, c'est bien sûr la diversité du parcours. On avait installé donc dans chacun des villages un food truck, bien sûr yvelinois, jouons le local. Et le clou de cette opération, ça a été une fois de plus une forte implication du conseil départemental avec qui nous entretenons d'excellentes relations, puisque en fin de journée, sur la salle municipale de Saint-Arnoux, on a eu la chance d'accueillir l'orchestre philharmonique du département des Yvelines, l'Alliance, avec plus de 45 concertistes. Et grand moment d'émotion pour nous, pour moi, c'est qu'à la fin de ce concert, bon, des Yvelinois sont venus me voir et me remercier parce que c'était la première fois de leur vie qu'ils assistaient à un concert. Voilà.
Oui, beau souvenir donc.
Très très beau souvenir et très émouvant.
Alors, cette première édition s'est visiblement très bien déroulée. Est-ce qu'une deuxième édition est dans les tuyaux ?
Alors, mai 2023, rando village. Mai 2024, rando olympique. Mai 2025, un nouveau rando village.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rando olympique ? Ou est-ce que c'est un peu trop tôt ?
C'est un peu trop tôt, mais malgré tout, je peux vous en parler.
C'est ambitieux, en tout cas.
C'est extrêmement ambitieux. C'est un superbe mouvement populaire. C'est que notre fédération, on dépend de la Fédération Française Nationale de Randonnée, qui a décidé, il y a quelques mois, de lancer un événement qui consiste simplement à faire converger, dès le mois de janvier, de tous les coins de France, des ambassadeurs, avec pour finalité, avec pour objectif, d'arriver le 10 mai aux portes de Paris. Alors nous sommes concernés parce que dès mi-janvier, donc des premiers départs vont s'effectuer d'Orthez, de Perpignan, de Biarritz, de Bordeaux, de Nantes, de Brest, du Havre. Donc bref, on collecte tous les ambassadeurs qui vont partir du grand ouest de la France. Alors combien de personnes, c'est un gros point d'interrogation. Mais l'objectif, nous, c'est d'accueillir à partir donc du 4 mai sur notre territoire tous ces ambassadeurs qui seront accompagnés d'une part par nos clubs, également après une rencontre des 12 communes qui vont être traversées par ces 90 km, d'accueillir toutes les associations et clubs qui seront présents sur le territoire de ces communes. Le conseil départemental également est très intéressé par cet événement. Entre autres, ils souhaitent de nouveau mettre à notre disposition l'Orchestre de l'Alliance, qui sera non plus de 45, mais je crois de 75 concertistes. Également, le directeur de la culture, Éric Delafoy, s'est impliqué. Les collégiens, dont les collèges seront sur le parcours. Les espaces naturels sensibles, les ENS aussi, qui sont intervenus lors de rando village, souhaitent aussi faire de la sensibilisation sur le biotope. Bref, l'objectif, la finalité, c'est que durant ces 4-5 étapes qui vont parcourir notre département, les ambassadeurs soient accompagnés par les clubs locaux.
On va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour continuer de parler de randonnée avec Hervé Malcorpi. Donc on est toujours avec donc Hervé Malcorpi. On poursuit sur la randonnée. Vous parliez à l'instant de Rando Olympique 2024. Pour revenir à une actualité peut-être plus présente, sans se projeter aussi loin, même si c'est très intéressant. Vous l'avez dit dans l'émission du comité départemental, l'idée c'est de baliser et de gérer des chemins de petites randonnées, de randonnées et de GRP. Récemment, a vu le jour, je pense notamment au chemin qui va de Chatou à Giverny, les 128 km. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet qui est quand même conséquent?
C'est conséquent et c'est un projet qui a une très très longue histoire puisqu'il a débuté il y a plus d'une douzaine d'années. Ça a été d'une part de contacter les 33 communes qui sont présentes sur ces 128 km. J'aime bien cette image, donc GRP, Grande Randonnée de Pays Impressionniste, parce que nous partons donc du déjeuner des canotiers de Renoir pour arriver au Nymphéa de Claude Monet à Giverny.
La culture est toujours proche dans votre démarche.
La culture, toujours, est toujours proche. Mais il n'y a pas que la culture, on pourra en parler tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un GRP qui longe la Seine, avec cette notion très importante d'étape, puisqu'il y a 8 étapes. Entre chaque étape, c'est entre 17 et 20 km, mais surtout à chaque étape, il y a une gare. Donc soit vous êtes un randonneur expérimenté, donc vous faites ce parcours pendant une semaine, soit vous l'êtes un peu moins parce que vous n'avez pas l'entraînement physique ou parce que vous n'avez pas le temps. Donc vous partez d'une gare, vous marchez pendant 17-22 km, vous arrivez à une gare et vous rentrez chez vous. Donc c'est le principe de gare à gare. Alors parallèlement donc à ce parcours, il y a une belle inauguration qui s'est déroulée donc le jeudi 5 octobre sur l'île des Impressionnistes, avec la présence de notre président de département, la vice-présidente, le maire de Chatou, la maire de Louveciennes. On était plus d'une centaine de personnes qui étaient impactées par cet événement. Et puis l'après-midi, on a développé avec l'association Sequana, qui est basée à Chatou, des ateliers de découverte sur la fabrication de bateaux. Également un autre atelier concernant une pré-information sur le fauvisme et l'impressionniste, hein, la maison Levaneur, avec des conférenciers. Et puis bien sûr, le clou du spectacle, c'est une pré-inauguration avec deux randonneurs sur les premiers pas du GRP impressionniste. Également une initiation sur la marche nordique et marche de l'endurance.
Bel événement, belle réalisation pour le comité de randonnée. Ce genre de projet, est-ce que vous en avez d'autres au cours d'élaboration?
Non, pas pour le moment. Enfin, je vais poursuivre quand même sur le GRP impressionniste, qu'il est programmé l'année prochaine d'avoir une approche davantage internationale. Parce que comme vous devez le savoir, hélas pour nous, une grande partie des tableaux impressionnistes se trouvent aux États-Unis, enfin à Chicago, à Washington et à New York. Or, il s'avère que les amis de la maison Fournaise, qui ont des relations étroites avec les directeurs de musées, ont tout un maillage, j'allais dire toute une banque de données, avec des Américains qui, de temps en temps, entre autres, ils ont financé le balcon du restaurant Fournaise. Donc on souhaite attirer les étrangers, principalement les Américains. Donc charge à nous pour trouver non pas des refuges ou des auberges de jeunesse, mais de trouver des gîtes d'étape avec un relatif confort. C'est un outil outil de communication important pour nous, au même titre que nous avons travaillé avec une agence de communication sur une exposition itinérante qui va donc présenter l'ensemble de nos 8 étapes, aussi bien à Chatou qu'à Mantes, mais également au siège du conseil départemental. Voilà en ce qui concerne le lancement de ce GRP, mais pour le moment dans les tuyaux, on s'oriente davantage sur des événements que nous avons créés en 2023. On pourra également en parler et ceux qu'on va développer en 2024.
Alors justement, quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots?
Alors 2023, on a mis un accent important sur un contenu de solidarité. Alors ça s'est traduit après un an d'échange avec le château de Versailles sur une marche auprès des malvoyants. Donc avec le directeur de la culture, le directeur de la sécurité, le directeur des relations publiques et handicap, on a donc organisé une marche pour les malvoyants près du Grand Canal et du Grand Trianon. La totalité des inscriptions étant utilisée pour financer la recherche sur la maladie rétinienne. On a eu, et on a en clou du spectacle, une fois de plus, on a eu la chance à la fin de cet événement de recevoir donc Alain, le grand jardinier.
Voilà, qui est un local d'ailleurs, qui habite du côté de Fargy.
D'accord.
Oui, absolument.
Okay.
Jardinier en chef du château de Versailles.
Voilà, exactement. Qui est venu saluer cet événement. Mmh. Également, nous organisons pour le mois de décembre donc le Téléthon au club de Saint-Germain-en-Laye. Et puis également, nous sommes en train de signer avec une structure de Saint-Cyr-l'École médico-psychologique l'encadrement. Deux fois par mois, d'un public défavorisé. Donc, ils seront encadrés par nos animateurs, les infirmières et par les membres du comité directeur aussi.
Donc, l'idée, c'est de les amener en randonnée.
En randonnée, pendant une heure et demie, et les sortir un peu de leur contexte habituel et découvrir la nature en marchant.
D'accord. Donc, c'est une sensibilisation à l'environnement que vous ciblez avec ce genre d'opération.
À l'environnement, mais surtout leur parler de marche. Il est clair qu'en marchant, enfin je reprends les propos de Nietzsche, on ne peut penser qu'en marchant.
Et ça doit être intéressant de savoir comment, vous avez pu sans doute échanger avec eux, comment les non-voyants ressentent justement la randonnée. Ça doit être assez...
Alors écoutez, j'étais en relation pendant un an avec la présidente de cette association-là, Ariel Dumas. Enfin, j'ai fait sa connaissance parce que mon homologue de Paris avait déjà organisé des marches malvoyantes, donc c'est comme ça qu'il m'a passé le relais. Et il m'a dit, écoute Hervé, son grand rêve, c'est d'organiser une marche dans le château de Versailles. Voilà. De toute façon, la marche, c'est un grand moment d'émotion. Donc pendant une heure et demie, elle était à mon bras. Et puis on a marché le long du canal, elle s'est jetée dans mes bras, elle m'a remercié, donc c'est beaucoup d'émotions. C'est des gens qui ressentent des sensations que nous, on est incapables. Enfin, c'est assez incompréhensible.
En fait, ils te compensent d'une certaine façon.
Oui,
c'est peut-être un mot un peu barbare, mais...
Ouais.
Vous l'avez dit, vous gérez les sentiers de randonnée, enfin les chemins de randonnée. Il y a un projet dans le Sud-Yvelines d'une maison de la randonnée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, quelques mots. On a été approché par Sandrine Breton-Sini, enfin, je ne sais pas, qui donc dirige les offices de tourisme sur Rambouillet Territoire. Actuellement, il y a un point de tourisme ou d'information à Saint-Arnoult-en-Yvelines, qui est c'est Tiffaine qui gère cette petite structure. Donc, ils nous ont contactés en amont de leur réflexion, parce qu'ils souhaitent donc créer cette maison de la randonnée, mais randonnée au sens large du terme, puisque c'est la randonnée équestre, la randonnée pédestre et cyclotourisme. Mmh. Donc une réunion a été organisée à notre siège, à Maurepas, avec les clubs de Rambouillet. On a deux clubs à Rambouillet, donc de proximité, en essayant de définir un pré-cahier des charges pour savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aux randonneurs du coin en termes de boutiques, d'organisation de randonnées, avec des spécificités sur les biotopes, sur les champignons, sur le chant des oiseaux, sur la reconnaissance des arbres.
Alors on va juste faire une courte pause, on revient juste après pour parler de la maison de la randonnée. Donc on est toujours avec Hervé Malcorpi pour parler de randonnée pédestre. Vous parliez à l'instant de cette maison de la randonnée et de votre collaboration sur ce projet avec Rambouillet Territoire, l'Office du Tourisme en tout cas. Est-ce que vous avez une idée du moment où cette maison de la randonnée verra le jour?
Pas du tout. Enfin,
c'est pas nous qui sommes
moteurs de cet événement, de cette ouverture. Donc je peux pas vous répondre. Hein, la balle est plutôt dans le camp de Rambouillet Territoire.
Bon, voilà. Donc vous intervenez un peu comme consultant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possiblement...
Bah, ils font du, ils font, euh, Bon, en marketing, il faut du benchmark, quoi. Tout simplement, c'est pas la peine d'inventer l'eau chaude. Ils sont rapprochés de nous parce qu'on a un retour d'expérience sur le profil des randonneurs, des randonneuses, ce qu'ils attendent, également sur les circuits qui existent dans les Yvelines, sur les ce qu'on appelle nous dans notre jargon les points d'intérêt, hein, qu'on retrouve sur nos topo guides. Alors j'ouvre pas forcément la parenthèse à propos de points d'intérêt. Je vais répondre sur une appli qu'on vient de lancer il y a relativement peu de temps. Le national a demandé à chaque département de réfléchir sur des parcours avec des points d'intérêt. Et donc nous avons identifié, localisé dans notre département une centaine de parcours qui proposent des chemins avec des niveaux de difficulté, avec des points d'intérêt.
Est-ce que vous pourriez définir ces points d'intérêt ?
Les points d'intérêt, c'est des points historiques. Ce sont des églises, ce sont des monuments, ce sont des cimetières, ce sont des châteaux, ce sont des bois, ce sont des forêts, ce sont des fontaines. Toujours cette notion de gare, toujours cette notion de niveau de difficulté, toujours cette notion de durée de trajet, en faisant en sorte que ce genre de parcours soit donc utilisable pour n'importe quel, je n'ai pas parlé de randonneur ou de trekker, mais de marcheur. Donc c'est plus aujourd'hui, à travers toute la France, plus de 6200 parcours qui sont accessibles pour tout public. Et je le répète, c'est une application qui est gratuite.
Et vous n'avez pas donné le nom de l'application ?
Marando.
Merci.
Pour compléter la Stéphanie, il existe pléthore d'applications actuellement avec des randonnées. Alors vous avez en partie déjà répondu à ma question, à savoir ce qui différenciera votre application des autres, mais encore. Parce qu'il y en a beaucoup.
Alors, ce qui fait la force...
C'est pas une question piège, attention.
Non, mais ce qui fait la force de notre application, c'est que c'est crédible et légitime. Dans le sens où vous avez plus de 10 000 randonneurs bénévoles qui géreront les 250 000 kilomètres qui existent sur notre territoire national. Ce qui veut dire concrètement que nos 6200 parcours sont fiables.
Ce qui n'est pas toujours le cas, mais vous n'avez rien dit.
Alors, effectivement... La transition est toute trouvée, vous le disiez, pour tout public. Comment on fait si on veut commencer la randonnée ? Quel conseil vous donneriez à un débutant ?
Alors, je vais vous parler de mon exemple.
Parfait.
Je vais vous parler de mon exemple. J'étais sportif à bon niveau quand j'avais 15, 16, 17 ans. Après, les études, des études longues, des activités intenses dans une grosse entreprise du CAC 40, plus le fait également d'un mandat d'élu. Donc, c'était du 6h30, minuit, 1h du matin. Ça a duré plus d'une dizaine d'années. Après, est arrivée la retraite. Je vois mon médecin, bilan sanguin, terrible. Terrible. Enfin, glycémie, cholestérol, etc. Et j'avais deux possibilités. Parce que dans son bureau, derrière, il y avait deux grandes photos de lui randonnant en Arctique et en Antarctique. Et il m'a dit, écoute Hervé, deux choses. Ou c'est les médicaments, ou c'est la marche. Médicaments, moi, c'était un doliprane par an. Donc, j'ai choisi la marche. Alors, je me suis rapproché des amis de Compostelle à Paris, parce que je suis croyant. Et pendant 3 mois, 4 mois... chaque dimanche, donc nous marchions pendant 15, 20, 20 kilomètres et j'ai énormément échangé avec ces futurs pellegrinos ou des pellegrinos qui connaissaient déjà les chemins de Compostelle. Et puis à un moment, j'ai eu un déclic. Je dis Hervé, c'est le moment de partir. Alors c'est toujours le côté un peu croyant. Je dis Hervé, tu pars seul, tu pars hors saison, tu pars d'une seule traite et tu fais le camino le plus difficile. Donc j'ai fait ce qu'on appelle le Camino del Norte, donc je suis parti de l'aéroport de Bayonne-Biarritz, donc c'est toute la côte jusqu'à Santiago de Compostela et jusqu'à Fisterra, et là j'ai marché cette semaine, et c'est là où c'est assez fantastique, contrairement au Camino français, c'est que je ne réservais strictement rien, c'était vraiment au jour le jour, parti seul, très très peu de Français, par contre la terre entière, au départ donc on prend possession de son corps, de la façon dont on met... nos vêtements à l'intérieur, dormir ou pas dormir dans des albergués où on est 30, 40, malgré les boules-caisses, se lever à 6h du matin, c'est 15 € le dîner, le couchage, le petit déjeuner, et on part. Et donc les 10 premiers jours, donc on prend possession de son corps, j'ai commencé à rencontrer d'autres pellegrinos, je disais c'est pas possible, c'est vachement dur, et puis 3 semaines après... Avant d'arriver à Santiago, j'ai dit « Hervé, tu vas recommencer tellement c'est magique » puisque un moment ou un autre, au bout de 15 jours, 3 semaines, on a l'esprit qui sort totalement de son corps, on s'aperçoit même plus qu'on marche. On a toujours cette flèche jaune sur fond bleu qui vous mène vers Santiago des Compostela. Et le bilan, c'est que juste avant de partir, j'ai fait mon bilan sanguin, terrifiant. Je suis arrivé donc en région parisienne, les 40 critères étaient passés au vert. Voilà, entre autres, un des bienfaits de la marche.
C'est intéressant de vous écouter parce que je pense que les auditeurs vont s'en rendre compte, vous en parlez encore avec une grande émotion. Parce que c'est à la fois, je dirais presque pour vous, si, arrêtez-moi si je me trompe, une tranche de vie, puis en même temps un retour sur vous-même et avec le côté religieux ou pas, un moment de spiritualité fort. Vous parliez tout à l'heure de la culture, mais vous voyez que la randonnée, si j'ai bien compris, ça va bien au-delà.
C'est la découverte d'histoire, c'est la découverte d'une culture, c'est la découverte des autres, c'est la découverte de son corps, et c'est assez fantastique les capacités que peut avoir notre corps. J'étais, de temps en temps, il y avait des dénivelés, parce que les dénivelés sont très très importants, et j'avais en face de moi, j'avais un des fondateurs des Podemos, là, qui s'appelait Jesús, je m'en souviendrai toujours. Lui, Hervé, buen camino, ultria, Saint. Et donc, quand on s'est quitté à Saint-Jacques-de-Compostelle, on était en pleurs. Donc quelques anecdotes, il y avait une femme qui appelait son mari. On disait, bon, bah, ça y est, je retourne à la maison. Et elle a raccroché, elle ne comprenait pas. Son mari lui a dit, écoute, c'est la dernière fois que tu fais le chemin de Saint-Jacques parce que je te sens tellement heureuse et pleine de bonheur. Visiblement, ça ne lui était jamais arrivé. Et c'était une Hollandaise aussi qui appelle son mari, qui dit, bon, voilà, j'arrive à l'aéroport. Ne viens pas me chercher à l'aéroport de Rotterdam. Je rentre à pied chez moi. Ben voilà, oui. que des belles anecdotes. Enfin, j'en ai plein d'anecdotes
comme ça. Que de
belles
histoires. Oui, ouais. Et on a compris la rencontre de l'autre.
Oui, c'est ça.
Et de soi.
Et de soi.
On va faire une courte pause et on revient juste après. Donc on est de retour avec Hervé Malcorpi pour cette dernière partie consacrée à la randonnée. Vous venez de nous confier votre expérience personnelle des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, riche en émotions et en rencontres, je pense qu'on l'aura compris. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques conseils destinés à ceux qui aimeraient marcher et qui ne savent pas comment le faire sans se lancer forcément dans de grands périples. Comment on fait pour marcher ne serait-ce que 10 km ?
Bah écoutez, déjà, c'est notre organisation. On a une cinquantaine de clubs qui sont répartis sur le territoire. C'est déjà de rentrer en relation avec un club. Obligatoirement, il y a toujours un club de proximité. Et là, il y a plusieurs possibilités. Hein. On est sportif. Donc on a, j'allais dire, deux offres produits. Hein. Il y a une offre produit où il faut être en bonne condition physique. Hein, c'est la marche Audax, marche d'endurance. C'est-à-dire qu'on est sur un critère, non pas de 4 km/h qui est donc la vitesse moyenne d'un randonneur, mais on est sur une moyenne de 6 km/h. Vitesse constante durant 12,5 km ou 25 km ou 50 km.
Oui.
Voilà. Donc là,
on s'adresse à des vrais sportifs.
On s'adresse à des vrais sportifs, à des tranches d'âge un peu plus jeune, quoique. Et puis là, on est encadré par des animateurs qui sont formés Audax Endurance. L'autre également marche qui se développe, c'est la marche nordique, hein, avec une paire de bâtons. Là aussi, qui permet au corps d'être dans un mouvement total, hein, de synchronisation entre le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Ensuite, marche traditionnelle rando. Hein, chaque club aujourd'hui propose deux ou trois fois par semaine des sorties avec des animateurs qui sont formés. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle rando santé ou rando douce, où là on accompagne des marcheurs avec, on n'est plus sur du 6 ou du 4 km/h, on est plutôt sur du 3 km/h, où chacun marche à son rythme, toujours encadré. Il y a toujours un capitaine de route et un serre-file. Donc chacun marche à son rythme, on est là plutôt sur 3 km/h et sur une distance qui varie entre 5 et 10 km. Hein, donc c'est pas. C'est pas très très
donc, épuisant. Tout à fait adapté à des gens qui débutent,
voilà.
La marche.
Quelle que soit la population, oui, effectivement.
Alors, Jean-Marc le disait tout à l'heure, Rambouillet, la vallée de Chevreuse, enfin, on est quand même dans un écrin pour la randonnée dans le sud Yvelines. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de randonnée à faire si on ne connaît pas
C'est une bonne question. Juste un aspect aussi, Stéphanie, mais peut-être allais-tu y venir. C'est au niveau de... Alors, il y a les clubs. Monsieur a parlé du club, mais il y a aussi le matériel. On s'équipe comment?
Tout à fait. Peut-être revenons d'abord sur le matériel avant de partir en forêt de Rambouillet.
Faut-il faire un fort investissement ou pas?
Alors, le randonneur, d'une façon générale, les investissements, c'est les chaussures et le sac à dos. Parce que là, c'est extraordinaire. Enfin, vous devez dire... Regardez, mais il y en a qui escaladent le Mont Blanc en tongs, en basket, hein, c'est assez exceptionnel, quoi. Hein. Ou alors avec des chaussures, avec des élastiques, parce qu'au bout de 2-3 jours, les semelles se désolidarisent, quoi. Hein. Donc c'est les chaussures, et puis c'est également le sac à dos. Donc les chaussures, ça dépend sur quel terrain. Lorsqu'on fait de la moyenne et de la haute montagne, c'est ce qu'on appelle des chaussures tigeux hautes, hein, haute. Avec, je rentre un peu dans le détail, mais avec... une protection Gore-Tex, donc imperméable, des chaussures Vibram, hein, donc pour amortir les chocs. Et lorsqu'on est dans le département des Yvelines, hein, c'est des chaussures tige basse. Alors les prix, ça varie de 60 à 100 euros pour les tiges basses, et puis pour les tiges hautes, de 80 à... Enfin, ça va jusqu'à 200 euros. Bon. Ensuite, il y a le sac à dos, hein, on parle de litres. Donc quand vous faites du trek, une randonnée, bon, c'est le 35 litres est amplement suffisant. Hein, c'est pour contenir votre réserve d'eau, pour contenir vos couches, hein, ce qu'on appelle, il y a trois couches, hein, des couches très transpirantes avec un t-shirt, une polaire et puis également une sorte d'imperméable ou de caouet. Vous avez le tour du cou, les capuches, puis également vous avez des produits le soir en arrivant, pour vous occuper de vos pieds, hein, vous occuper de vos pieds. Puis le matin également, enfin, je n'ai pas rentré dans les noms de marque, mais également, on utilise encore une autre crème, hein, pour éviter les ampoules. Et puis également les bâtons. Alors, les bâtons, c'est très important. Moi, tous les ans, j'arrive à convaincre mes deux belles-filles de kidnapper leur mari, donc mes deux fils. Et au départ, mais papa, on n'a pas besoin de bâtons, etc. Mais la seconde randonnée qu'on a fait ensemble, je dois refaire des bâtons. Pourquoi? Parce que simplement les bâtons permettent, d'alléger son poids de 35% sur nos articulations. Donc chaussures, sac à dos, bâtons. Et puis ensuite, on rentre dans d'autres produits techniques, c'est shorts et puis t-shirts, quoi. Mais technique, hein.
Alors, armé de ses chaussures, de ses bâtons et de son sac à dos, quelles sont les premières randonnées à faire, selon vous, en forêt de Rambouillet et en vallée de Chevreuse?
On a déjà eu des remontées sur la Seine impressionniste, là, qui a été inaugurée il y a peu de temps. C'est dithyrambique, parce que longer la Seine, et surtout en fin de journée, on retrouve les tons, la tonalité de nos peintres impressionnistes. Et puis, le PNR de la haute vallée de Chevreuse, il a fallu qu'on arpente dans tous les sens pour créer et développer ces quatre parcours dans le cadre de Rando Village, c'est assez exceptionnel, quoi. Moi, je suis tombé amoureux fou du PNR de la vallée de Chevreuse, parce qu'il y a également un peu de dénivelé. Il y a des châteaux, il y a des forêts très différentes des unes des autres. C'est sablonneux, c'est argileux, il y a de beaux plans d'eau, il y a une très très belle végétation. Donc, je dirais la Seine et le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse.
Alors, est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis sur le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont particulièrement marqué?
C'est la forêt. Enfin, c'est Clairefontaine. C'est assez étonnant, c'est qu'à un moment on longe donc le centre international d'entraînement de foot. Mmh. On longe également, on passe tout près du château Le Nôtre. Aussi, enfin, c'est des coins magiques, et on a l'occasion également de voir des chevreuils, de voir des lièvres, de voir des champignons.
Oui, c'est donc un moment pour complètement.
On est dans la contemplation.
On est dans la contemplation. Peut-être juste pour terminer, parce qu'on n'a pas évoqué cette question, vous l'avez un petit peu abordé. Est-ce qu'on peut randonner toute l'année?
Oui. Mon Dieu, que ça fait du bien au mental de randonner. De partir 2 heures, 3 heures, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, et pour votre mental, et pour votre corps. Non, c'est le meilleur médicament au monde, la randonnée.
Très bien, écoutez, en tout cas, Monsieur Malcorpi, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Stéphanie, grand plaisir.
Voilà, c'était très, très intéressant, passionnant. Stéphanie, on se retrouve pour un prochain numéro de Ça se passe pas de chez vous.
Oui, le mois prochain.
Le mois prochain, à bientôt.
À bientôt.